Et donc, je vais commencer maintenant ce message. Donc, c'est pour moi le premier message de l'année 2021. Et j'aimerais commencer ce message par une introduction avec une émission qui a été créée par, enfin, créée, elle n'a pas été créée par M6 en 2012, parce que c'est une émission qui existe à l'étranger depuis 2009 sous le nom de Undercover Boss. C'est Patron Incognito, la traduction française, Patron Incognito. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce concept, mais c'est très simple. En fait, le fondateur d'une grande entreprise, alors soit les françaises ou pas, mais le PDG, vous voyez, le big boss d'une entreprise, eh bien, il va laisser ses privilèges de big boss et venir au milieu de ses employés, mais de manière totalement incognito. Et donc, il va enlever son costume et sa cravate, il va laisser sa secrétaire particulière et son chauffeur personnel pour vivre incognito parmi ses employés. Il va en quelque sorte descendre de son trône de PDG, se mettre au niveau de ses employés pour mieux comprendre leurs conditions de travail, les difficultés qu'ils rencontrent et parfois même tester leur intégrité. Je soupçonne même que c'est un peu pour ça qu'il y va. Mais bref, comme la plupart des employés de l'entreprise connaissent son visage, eh bien, il va prendre une autre identité. Il va changer de look, un peu comme sur ces images. Et ça, c'est des images réelles qui ont été prises de cette émission. Et voyez, c'est un PDG d'une grande entreprise et il va être maquillé quelque part et prendre la condition. Alors lui, il vendait du pain. Je crois que c'est les boulangeries Paul, il me semble, je ne suis pas convaincu du truc là, mais voilà, donc c'est un gros groupe, il y a énormément d'entreprises là derrière, et donc il veut voir de près ce qu'il s'agit. Là, il y a un directeur d'une grosse chaîne aussi de bodybuilding, enfin de stretching et tout. Là, c'est un vendeur de sushi, donc pareil, une chaîne, donc vous voyez, il vient, il se fait vendeur avec les vendeurs pour voir un petit peu ce qui se passe, comment les autres sont formés, etc. Voilà, donc vous voyez, il transforme son look, hein, le PDG avec son costume, il va devenir un petit jeune là, avec des lunettes, son petit sac, et puis incognito, il va être au milieu des autres. Alors, toute proportion gardée, on pourrait presque dire que cela est un concept biblique. Alors vous dites, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ce matin? Il a déraillé? Pas vraiment. En fait, si vous lisez la Bible, et particulièrement le chapitre 2, le début du chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens, vous allez voir que c'est un concept qui ressemble étrangement à ce que Jésus est venu faire quand il est venu sur la terre. À la différence que Jésus, lui, il était patron d'une multinationale spécialisée dans la transformation du cœur et le vaccin contre le virus du péché. D'accord? Donc, vous voyez, c'est un petit peu la même chose. Le créateur de la vie, le créateur de l'homme, le créateur de tout l'univers, de toutes les étoiles. Et je ne sais pas s'il y a des enfants ce matin, mais rappelez-vous, les étoiles, ces milliards d'étoiles, 330 milliards d'étoiles juste dans notre galaxie. Et il y a des milliers, des dizaines de milliards de galaxies dans l'univers. C'est colossal. Ce créateur-là vient sur la Terre et vient pour éradiquer le péché. Et donc, la solution, c'est que lui-même sera le porteur de ce vaccin. Et donc, il va falloir qu'il prenne une cellule souche, mais au travers d'un sang pur. Et donc, ça sera au travers de lui-même. Donc, il va offrir sa vie, il va donner son sang pour éradiquer le péché. Et donc, nous, notre privilège, c'est simplement de recevoir ce vaccin. Et c'est Dieu qui a pourvu à tout. C'est lui, le grand architecte. C'est lui qui a pourvu à la solution contre le péché. Et voilà ce qu'il va faire en fait. Et donc, si on parcourt l'Épître aux Philippiens, eh bien, au-delà de ce que je viens de dire ici, le contexte de l'Épître aux Philippiens, on voit que c'est une église où il vivait vraiment de belles choses. Il n'y avait pas vraiment de problème dans cette église, en tout cas pas de problème majeur. Les chrétiens de la ville de Philippe, on peut dire qu'ils expérimentaient une belle forme d'unité. Et au début du chapitre 2, Paul va rappeler certains éléments de ce qu'ils vivaient ensemble. Et ça, c'était l'objet de mon dernier message. Je crois que je l'ai fait à la fin du mois de décembre. Et on voit qu'ils vivaient la consolation. Ils vivaient l'encouragement dans l'amour. Ils vivaient la communion fraternelle. Ils vivaient la compassion et la miséricorde. Mais au verset 5, l'apôtre Paul leur dit, donc chapitre 2, verset 5, vous pouvez prendre vos Bibles, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour. Ayez une même âme, une seule pensée. Alors Paul se réjouissait vraiment de ce que les Philippiens vivaient entre eux, mais il leur demande de combler sa joie. Il ne se satisfait pas d'un beau feu d'artifice, lui, il veut voir le bouquet final. C'est ça qu'il veut voir l'apôtre Paul. Et pourquoi il dit ça? Eh bien parce que, comme je l'ai souligné, les Philippiens n'avaient pas de problème majeur, sauf que parmi eux, deux anciennes collaboratrices de Paul, qui se nommaient Évodie et Syntyche, avaient quelques soucis à s'entendre. Et la tension était si forte entre elles que Paul demande à quelqu'un de venir les aider à régler leurs différends. Alors, ces tensions n'avaient pas encore pourri les relations dans l'Église, parce que Paul en aurait parlé sinon. Mais, il prévient. Et avant que ça prenne des proportions, il va demander à ce que les Philippiens alignent leurs pensées, que Évodie et Syntyche s'alignent également dans leurs pensées. Il dit exactement la même phrase au chapitre 4, mais là, il commence l'exhortation et il va prendre l'exemple de l'incarnation de Jésus comme modèle pour vivre l'unité. Et donc, c'est ce qu'on va voir ce matin, l'abaissement du Christ. Et on va voir en quoi l'abaissement du Christ est un modèle pour nous, pour vivre l'unité au sein de l'Église. Et je dirais même au-delà de l'Église, c'est au sein de votre couple, au sein de votre famille, au sein de votre entreprise. Bon, avec bien sûr les limites que ça a, dans une entreprise, tout le monde n'est pas chrétien. Alors que dans l'Église, on est censé connaître Jésus et donc avoir cette possibilité. Et vous allez voir, c'est impressionnant. Comment cet exemple de Jésus, l'exemple de l'incarnation de Jésus, est un modèle à imiter pour chacun d'entre nous. Alors, je vous invite à lire maintenant le texte inspiré de Dieu, et c'est la seule partie qui est totalement inspirée. Alors, concentrez-vous et lisons ce texte ensemble. Philippiens chapitre 2. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Ah, excusez-moi. Apparemment, j'ai zappé la deuxième partie du verset. Donc, je vais vous le lire. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et là, on arrête notre lecture du texte biblique. Voilà l'idée que j'aimerais que vous reteniez ce matin. L'unité ne se développe qu'au prix d'une abnégation de nous-mêmes, nos droits et privilèges, et d'un service sacrificiel des autres. L'unité ne se développe qu'au prix d'une abnégation de nous-mêmes et d'un service sacrificiel des autres. Et nous allons voir ici l'attitude que l'on devrait développer au sein de l'Église. Alors Paul donne pas une série de conseils ou de commandements pour vivre l'unité, mais ici, alors il en donne ailleurs, hein, mais ici, il va donner l'exemple de la vie de Christ, de l'incarnation de Jésus pour que nous, on puisse imiter ce modèle-là. On l'a lu au verset 5, Paul dit qu'il faut que les Philippiens aient la même pensée, pas la même pensée, mais qu'il faut je reviens sur le texte, ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. L'idée, c'est ayez en vous l'état d'esprit, l'attitude qui était en Jésus-Christ. Et donc là, on va aborder les deux premiers versets et vous allez voir que ça peut être compliqué. Je vais essayer de rendre les choses le plus simple, mais ces deux versets ont fait couler énormément d'encre. J'ai jamais vu autant de commentaires sur deux versets parce que, en fait, il y a un enjeu assez majeur et c'est assez technique. Donc je vais essayer aujourd'hui, on va être un peu plus technique que d'habitude. Le premier point, il va être assez développé, mais je vais essayer de rendre la matière acceptable. Donc j'aimerais bien d'ailleurs avoir vos retours si ça l'a été, parce que pour moi c'est clair, mais peut-être que ça ne sera pas du tout dans mon explication. En tout cas, voilà, essayez de vous concentrer parce que le premier point est vraiment fondamental. Et le premier point, je l'ai appelé, et donc c'est la première attitude à développer dans l'Église pour vivre l'unité, c'est que Jésus cède volontairement ses privilèges divins. Alors quand je dis Jésus cède, vous pouvez dire je dois céder volontairement mes privilèges, peut-être humains, mais en tout cas, c'est l'idée, c'est de transposer et d'imiter l'attitude de Jésus. Donc céder volontairement ses privilèges. Et d'où je tire ça? Bah, du verset 6 et du début du verset 7. On va déjà se concentrer sur le verset 6 parce que vous allez voir qu'il y a de la matière ici. Le texte, donc dans ma traduction, c'est la traduction à la colombe, dit: lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez une version qui est un peu plus ancienne, la NEG, la nouvelle édition de Genève, je pense qu'elle date de 78, la traduit de cette manière-là. Lui qui existant en forme de Dieu, et c'est là, c'est littéral, vraiment littéral. Si vous prenez le texte littéralement, c'est ce que vous allez trouver. Et le mot forme de Dieu, c'est le mot morphé. D'accord? Donc en grec, ce mot n'est utilisé que trois fois dans le Nouveau Testament. Dans tout le Nouveau Testament, il n'y a que trois fois. Alors après, on va trouver des formes dérivées. D'accord? Mais juste le mot est utilisé que trois fois. Il est utilisé deux fois ici et au verset 7. Hein, quand vous lisez, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave ou la forme d'esclave, la morphée d'esclave. D'accord? Et donc, il y a très peu de matière. Donc, les exégètes, en tout cas ceux qui interprètent la Bible, ont été regarder l'autre occurrence. Et l'autre occurrence se trouve en Matthieu chapitre 16. Vous pouvez prendre vos Bibles si vous voulez. Moi, je vous facilite la tâche. Je vous dis juste le verset. En tout cas, c'est le verset 12 du chapitre 16. Il dit: après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux. Et là, on est en train de parler de Jésus après la résurrection. Et il apparut sous une autre forme, d'accord? Sous un autre aspect, une autre apparence. Et on peut dire même une autre morphologie, d'accord? Le terme morphée a donné morphologie. Donc, c'est, vous voyez, la carapace, l'enveloppe. Alors, il y a un autre mot, je sais, qui existe en grec, qui est schéma. Ça, c'est plutôt ce qu'on dépeint grossièrement. Mais ici, donc, les traducteurs l'ont traduit, ceux qui l'ont fait littéralement. Et donc, c'est pour ça que vous trouvez, il est lui qui existant en forme de Dieu. Mais là, il y a un petit problème, mes amis, parce que on ne peut pas toujours traduire littéralement, c'est le contexte qui doit nous indiquer le sens du mot. Et donc, moi, je vois ici deux problèmes avec cette transposition du mot morphée dans le texte. En fait, la première raison, c'est que si on applique donc cette traduction, c'est-à-dire que le mot morphée signifie l'apparence, ça signifie que Jésus n'avait que l'apparence, la forme, la morphologie d'un serviteur, d'un esclave. Or, c'est quoi l'apparence d'un serviteur? C'est un homme qui porte un bleu de travail et des chaussures de sécurité? Jésus n'a pas simplement pris l'apparence d'un serviteur, il a été un véritable serviteur. Il a été semblable à nous en toutes choses. Il a souffert comme nous, il a été tenté comme nous, il a subi les mêmes épreuves que nous. Donc, il n'a pas simplement eu de l'apparence. Il était vraiment un homme. Il était d'ailleurs devenu 100% homme. Et ça, c'est le mystère de l'incarnation, c'est que Jésus est devenu 100% homme alors qu'il était 100% Dieu. Et là, vous vous dites, mais attends, on ne peut pas être 100% un et 100% l'autre. On est soit moitié-moitié. Eh bien non, la Bible affirme les deux. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas réconcilier avec nos petites têtes. La deuxième raison qui me pose problème, c'est que si Jésus avait l'apparence de la divinité, hein, parce que c'est le début du verset 6, si il avait l'apparence de la divinité, il faut qu'on réfléchisse un peu. Dieu est esprit, n'est-ce pas? Il n'a pas de forme, il n'a pas de limite. Dieu est un être moral, d'accord? Et Dieu est esprit. Donc, Quand on regarde la Bible, on voit que Dieu est omniprésent. Il est présent partout, d'accord? Il remplit tout l'espace, tout l'univers. Mais comment un homme pourrait-il prendre la forme, avoir l'apparence de quelque chose qui n'en a pas? Et là, vous voyez, on se heurte de nouveau à un problème logique. Donc, on doit écarter cette traduction de Morphée qui ne serait que l'apparence de la divinité ou l'apparence de l'humanité. Parce que vraiment, Jésus était pleinement homme et il était pleinement Dieu. Mais vous savez que ce que je vous dis là, c'est avec du recul, en lisant plein de commentaires, mais au IVe siècle, il y a déjà eu un débat qui a été suffisamment envenimé pour que un concile soit rassemblé. Les églises ont commencé à se diviser en Orient. Et donc, c'est en 325 que l'empereur Constantin a réuni plus de 300 pasteurs, docteurs, théologiens pour un colloque quelque part. C'était le concile de Nicée. En 325 a eu lieu ce concile. Il a duré 3 mois. Entendez-vous bien? 3 mois pour écrire quoi? Eh bien, le symbole de Nicée, et ça représente un quart de page. Vous imaginez, ils ont mis 3 mois. Alors certes, ça devait être l'empereur Constantin qui régalait. Hein, ils étaient à l'hôtel, 3 étoiles, j'en sais rien. Mais bref, ils étaient là et ils ont écrit en 3 mois seulement à peine 15 lignes. Mais autant vous dire que ces lignes coûtent cher et qu'elles ont du poids. Alors comme elles sont précieuses, ben, je veux vous les livrer. Ça a été complété en 381, donc quelques années après, au concile de Nicée-Constantinople. Ils ont complété un petit peu cette définition, mais c'est bien de partir de la source. Et la personne qui a remis en cause un petit peu la divinité de Jésus, parce que c'est de là qu'on va toucher, hein, c'est le terme Morphée, que ben, Jésus, il n'était pas vraiment Dieu, il était semblable à Dieu, il ressemblait à Dieu, il avait l'apparence, mais il n'était pas vraiment Dieu, en fait. Et ça, c'est un problème, les amis. Et ce problème-là, il a été partagé, ça s'est diffusé et ça a posé un souci. Et je pense qu'on doit être sensible, et je pense que vous l'êtes en fait, parce qu'on a eu un souci à ce niveau-là, même dans notre Église. Et donc, on doit être clair, mais clair et net. Et c'est ce qui s'est passé. Regardez comment réagissent les chrétiens en 325 avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Voici le symbole de Nicée. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de tous les êtres visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non fait, non créé, consubstantiel au Père, par qui a été fait tout ce qui est au ciel et sur la terre, qui pour nous hommes et pour notre salut est descendu, s'est incarné et s'est fait homme, a souffert, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux et viendra de nouveau juger les vivants et les morts. Et au Saint-Esprit, ceux qui disent, il y a un temps où il n'était pas avant de naître, il n'était pas, il a été fait comme les êtres tirés du néant. Il est d'une substance, d'une essence différente. Il a été créé. Alors, vous voyez, là, c'est la définition de la théologie des témoins de Jéhovah ici. Et pas seulement, mais principalement, c'est-à-dire que Jésus a été créé. Et regardez ce qu'ils disent ici. Le Fils de Dieu est muable, c'est-à-dire qu'il peut changer et sujet au changement. Ben, ils le disent. L'Église catholique, donc vous voyez, là, c'est le terme universel. L'Église catholique et apostolique les anathématise. Waouh! C'est-à-dire qu'ils les mettent dehors clairement et ils les traitent d'hérétiques. Ils n'ont plus rien à faire dans l'Église parce qu'ils ont nié un point essentiel de la théologie, entre guillemets catholique, mais là, de la théologie chrétienne, parce qu'elle est fondamentale. Et même les catholiques ont une christologie qui tient la route. Et donc, je pense que là, sur ce terrain-là, on est vraiment en accord. Et voyez, cet homme qui se nommait Arius, ça a donné un mouvement, l'arianisme, et cette théologie, donc qui date du IVe siècle, eh bien, a été reprise par les témoins de Jéhovah. Pas seulement, il y en a d'autres qui l'ont reprise aussi, mais quand on veut pas que ce Jésus-là, ça nous dérange qu'il soit pleinement Dieu, parce que on n'arrive pas à le concevoir avec nos têtes. Tout ça, ça part d'un mot, d'une mauvaise interprétation d'un mot de Morphée. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ce point parce qu'il y a beaucoup de littérature qui existe sur le sujet, mais on va se contenter d'adopter la traduction de la Colombe ou bien celle de la Semeur. Vous prenez celle que vous voulez, mais les deux disent à peu près la même chose et elles reflètent vraiment l'intention de Paul ici. Et vous allez voir pourquoi je dis ça, parce que c'est le verset d'après qui nous permet de clarifier ce point-là. Donc la Bible à la Colombe l'a traduit comme ça, lui dont la condition était celle de Dieu. Et c'est ça que veut dire le thème Morphée ici, la condition. Lui qui était d'origine Dieu, eh bien il était de condition divine. C'est cette terminologie qu'il faudrait utiliser et elle est juste. Et donc elle est retraduite de la même manière au verset 7, en tout cas dans ma version. En tout cas, la suite dans le verset 6 va confirmer la divinité du Christ. Et là, ça fait aucun doute pour moi. Regardez ce que dit le texte. Il n'a pas, lui, alors on répète le texte, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Donc ça veut dire qu'il part de ce présupposé, l'apôtre Paul. Pas ici en train de défendre la divinité du Christ. Elle est faite de long en large dans l'épître aux Colossiens. Et ça, c'est vraiment. Il dit que Jésus est avant toute chose. Il a tout créé. Tout a été créé par lui et pour lui. Jean chapitre 1 dit la même chose. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et voyez, il y a une distinction. C'est-à-dire que Jésus n'est pas le Père. Donc la parole était avec Dieu, mais il est en même temps Dieu, était Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et ça, c'est une traduction directe du texte. Les témoins de Jéhovah ont rajouté des petits articles, des pronoms, et donc du coup, ils arrivent à la définition que Jésus était un Dieu. D'accord? C'est-à-dire qu'ils ne considèrent quand même pas que Jésus était un homme comme les autres. Mais il était Dieu avec un petit dé. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent quand ils traduisent la Bible. Le Dieu, c'est avec un petit dé. OK? Et donc, pour moi, ici, ça ne fait aucun doute. Le texte dit que Dieu, que Jésus était l'égal de Dieu. Et là, il utilise une expression, l'apôtre Paul. Alors, je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Une proie à arracher. Hein, ce n'est pas une expression que vous utilisez comme ça au boulot demain. Oui, alors, je me suis arraché. Non, on s'arrache une dent, mais on arrachait une proie, quelque chose qui. Une proie à arracher, c'est difficile à comprendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'expression, elle désigne quelque chose qu'on va saisir ou qu'on va emporter par la force. Hein, donc, c'est l'idée d'arracher. Hein. Si vous arrachez un sac à quelqu'un, un voleur va arracher, vous voyez, il lui prend des mains, il lui prend de force quelque part. Mais comme Jésus, il possédait déjà l'égalité avec Dieu, le sens d'arracher, c'est pas de se saisir de quelque chose, mais plutôt de s'accrocher à quelque chose, de se cramponner. Et donc, Jésus n'a pas estimé de se cramponner à son égalité avec Dieu. Jésus, il avait tous les droits, il avait tous les privilèges de Dieu. Mais pour devenir comme nous, eh bien, il a refusé de s'accrocher égoïstement à sa position privilégiée. D'accord? Regardez ce que dit un professeur de théologie, donc Henri Blocher, c'est un de mes profs à la fac. Il dit la chose suivante: le Christ préexistant, qui possédait le caractère essentiel de la divinité, n'a pas voulu traiter son égalité avec Dieu comme une aubaine dont on profite pour soi seul. C'est l'exploitation de son rang qui paraît l'objet du renoncement plutôt que le rang lui-même. Autrement dit, Jésus n'a pas perdu son rang de roi des rois, mais il a fait le choix de laisser de côté ses privilèges de roi. Il ne s'est pas cramponné à ses droits et à tous les privilèges qu'il avait en tant que Dieu. En devenant un homme, Christ n'a pas perdu son statut divin. Il n'a pas perdu son rang, mais les privilèges qui étaient liés à son rang. Un peu comme ces responsables de grandes entreprises. Pendant une semaine, ils n'ont pas perdu leur titre de PDG. Ils ont simplement, pardon, perdu leurs avantages, leurs droits, leurs privilèges de PDG. Pendant une semaine, ils ont dû manger des sandwichs ou à la cafétéria du coin. Ils n'ont pas été mangés dans des restaurants 4 étoiles comme ils en avaient l'habitude. Le matin, pour partir au boulot, ils n'ont pas été conduits par leur chauffeur, mais ils ont probablement pris leur voiture ou pris le métro comme tout le monde. voyez, ils ont pas perdu leur statut, mais tous les avantages qui étaient liés à leur statut. Ils devaient se soumettre parce qu'ils sont arrivés dans l'entreprise incognito. En tant qu'employés, ils se sont soumis au patron qui était là et qui était devant eux dans la hiérarchie quelque part. Alors je répète cette phrase, en devenant un homme, Christ n'a pas perdu son statut divin, il n'a pas perdu son rang, mais les privilèges qui étaient liés à son rang. Au verset 7, Paul va parler d'un dépouillement. Dépouillement de lui-même. Hein, c'est le verset 7, vous le lisez ici comme moi, mais il s'est dépouillé lui-même. Le verbe dépouiller est traduit du grec kénou, et ça évoque l'action de vider ou de se vider, d'être réduit à rien. Quelque part, c'est... Hein, vous voyez, on est vidé, on dépouille quelqu'un, on le laisse tout nu quelque part. Eh bien, ce terme kénou a donné en français le mot kénose. Alors, c'est peut-être un gros mot pour vous, et je m'en excuse, mais en tout cas, c'est peut-être un mot que vous avez déjà entendu quelque part. Ou les kénotistes, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est les gens qui pensent que Jésus a perdu carrément ses attributs, que Jésus était Dieu au départ, mais que en venant sur la terre, eh bien, on a arraché, il s'est dépouillé de ses attributs. Si vous allez sur Wikipédia, vous allez trouver la définition suivante. Ah non, je ne l'ai pas écrit ici, mais je vais vous la donner. Vous pourrez le faire. Vous allez sur Wikipédia et vous tapez kénose, d'accord? Et regardez ce que vous allez trouver. Alors, j'ai cité juste un petit bout, hein. Mais par amour, Dieu se dépouille de ses autres attributs divins, comme la toute-puissance, la gloire, l'impassibilité, la perfection, l'autosuffisance, la providence qui gouverne le monde. Alors, mes amis, si vous êtes des adeptes de Wikipédia, et moi j'y vais de temps en temps, ben, mes amis, méfiez-vous de ce qui est écrit dans Wikipédia, parce que c'est pas cachère tout ça. C'est pas biblique du tout, du tout. Et donc, moi, je vous invite à reprendre l'écriture, parce que ça n'est pas conforme aux écritures, en tout cas pas à notre compréhension des écritures. Parce que si on prend la compréhension de ce texte ici, Jésus se serait littéralement vidé de sa substance, vidé de son essence, de ses attributs, et donc il aurait perdu quelque part sa divinité et son titre, son rang. Mais est-ce que Dieu peut retirer, pardon, mais est-ce que Dieu peut retirer certains de ses attributs, sachant que les attributs de Dieu sont ce qu'il est? D'accord? Je donne un exemple. On peut enlever un bras à un homme, même deux, même voir une jambe, voir les deux, ça restera toujours un homme. D'accord? Mais Dieu, lui, c'est un être moral, un être spirituel. On ne peut pas amputer Dieu de ses attributs sans toucher à ce qu'il est. Dieu est parfaitement juste. Si on enlève une partie de la justice de Dieu, alors sa justice devient partielle. Et si Dieu devient un peu moins juste que ce qu'il est, ça veut dire qu'il devient imparfait. D'accord? Et là, mes amis, on touche à quelque chose de fondamental. Si on prend l'amour, un autre exemple, Dieu, la Bible décrit Dieu comme étant amour. Il est amour. C'est son essence. C'est ce qu'il est. Si on enlève une partie de cet amour, par exemple, on enlève 5% de l'amour de Dieu, c'est déjà pas mal que Dieu soit amour à 95%. Mais réfléchissez bien. Moi, si j'avais dit à Sandrine, mon épouse, chérie, je t'aime à 99%, vous vous dites, waouh, le mec champion. Vous savez ce que Sandrine, elle pense? Elle dit, ah ouais, alors les 1%, c'est pour qui? Et c'est son raisonnement. Et elle aurait raison. Même si Dieu était amour à 99%, il ne serait pas fiable, il ne serait pas fidèle à 100%. Et la Bible affirme que Dieu est 100% fidèle. Nous, on est infidèles, mais lui demeure fidèle. 1 Timothée chapitre 2, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et donc, Dieu est 100% et il reste 100%. Fidèle, fiable. Donc, vous voyez, on ne peut pas toucher aux attributs de la divinité de Dieu ou de Jésus parce que du coup, il n'est plus Dieu, sinon. Si on retire un seul de ses attributs, eh bien, on va dénaturer ce qu'il est. Et donc, en s'incarnant dans notre humanité, Jésus ne s'est pas dépouillé de ses attributs, mais des prérogatives de sa divinité en restant pleinement Dieu. Il s'est dépouillé de ses privilèges, de ses droits, pas de ses attributs. Je vous donne un autre exemple. Pendant sa vie terrestre, Jésus, il était pleinement Dieu. Eh bien, comment il n'a pas manifesté tous ses droits et tout son pouvoir? Voici trois exemples. Et il y en a moult autres dans les Écritures. Par exemple, à deux reprises, Jésus a nourri une foule de plus de 20 000 personnes. D'accord? On dit 5 000 hommes, mais il faut compter les femmes et les enfants. Donc, c'est en gros la moitié d'un stade de foot ou le stade de la Servette. Imaginez, toutes les tribunes pleines, Jésus, il reçoit 5 pains et 2 poissons. Et avec ça, il va nourrir 20 000 personnes. Donc, c'est un miracle extraordinaire. Personne ne peut faire ça. Et donc, Jésus était pleinement Dieu. Et pourtant, si on lit encore la Bible, Matthieu chapitre 4, par exemple, Jésus va passer 40 jours dans le désert sans manger. À un moment donné, le diable lui dit, hey, tu pourrais demander à cette pierre de se transformer en pain. Est-ce que Jésus aurait pu le faire? Bah, bien entendu qu'il aurait pu le faire. Mais il s'est abstenu. Vous voyez? C'est ça le sens. Jésus avait la capacité, mais il s'en est abstenu. Quand Jésus est crucifié, est-ce qu'il aurait pu descendre de la croix et botter le train de ces Romains qui se moquaient de lui? Ben bien sûr. Matthieu chapitre 26, verset 53, dit qu'il aurait pu appeler 12 légions d'anges. 12 légions d'anges, et paf, il pulvérisait tous les gars qui étaient autour de la croix. Troisième exemple, quand Jésus avait besoin d'argent, eh bien, Matthieu 17, 27 nous dit qu'il a pu faire apparaître une pièce d'argent dans le ventre d'un poisson. Il dit, va pêcher un poisson et récolte l'argent qui est dedans. Et c'est ce qui se passe. Donc, Jésus, est-ce qu'il avait la capacité de vivre d'une manière riche, voire très riche? Bien entendu, il avait la capacité de créer de l'argent. Donc, ce n'était pas un problème. On aurait bien aimé avoir ce pouvoir entre nous. Hein. Mais non, il s'en est abstenu. Voyez ce que c'est? C'est que Jésus, dans son dépouillement, il s'est dépouillé, pas de ses attributs, mais des privilèges et des droits qu'il avait. Et au lieu de brandir de manière légitime, de les brandir de manière légitime, il a choisi de ne pas en user en devenant serviteur. Et ça, c'est la deuxième attitude que l'on doit développer dans l'Église. Et on ira beaucoup plus rapidement sur les deux prochains points, trois prochains points. Jésus devient volontairement un serviteur humain. Et c'est le verset 7, la suite du verset 7 qui dit, en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. D'accord? Donc Jésus s'est dépouillé en prenant la condition d'un serviteur. Jésus n'a pas adopté simplement la forme extérieure d'un serviteur, comme on l'a dit, il a pris la condition d'un serviteur, littéralement d'un esclave. Il a pris sa condition. C'est-à-dire qu'il a vécu totalement comme un serviteur, totalement comme un homme. Et là, le texte va même plus loin parce qu'il utilise le mot esclave. Alors, le terme doulos dont il s'agit ici, c'est généralement utilisé de manière positive. Ce n'est pas péjoratif, d'accord? Mais ça exprime l'attitude de quelqu'un qui est au service, de quelqu'un de soumis, de quelqu'un d'obéissant, d'accord? Et donc Jésus, qui était Dieu, qui aurait pu commander à des milliers d'anges comme ça en claquant des doigts, eh bien lui va se soumettre aux humains. Il va se laisser attacher, il va se laisser crucifier sur une croix et il va obéir à son Père. Pourquoi? Pour sauver l'humanité. C'est ce qu'on lit ici dans Matthieu chapitre 20 au verset 28. Ce Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers, vient sur la terre pour montrer un exemple de service, mais un service qui va au-delà de simplement faire du bien aux humains, mais il va jusqu'à mourir. Ça sera notre quatrième point. Regardez ce que dit le verset 28 de Matthieu 20. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Vous voyez, Jésus est venu sur terre non pour être servi, mais pour servir les autres et nous montrer un exemple à suivre. Les disciples de Jésus devraient tous être des serviteurs, des gens qui ne sont pas là pour être servis, qui attendent qu'on fasse les choses à leur place, qui se posent dans un siège et qui attendent la bouche ouverte qu'on les nourrisse. Non, non, non. il devrait être au service comme Jésus. Jésus est venu pour servir, pardon, et nous donner sa vie, pour nous servir et nous sauver. Il est venu offrir sa vie. Et en offrant sa vie, il va payer notre dette, la rançon de ce que nous devrions rembourser à Dieu pour le vaccin contre le péché. Et ça, c'est le péché nous condamne pour l'éternité loin de la présence de Dieu. C'est ce que la Bible appelle l'enfer. Et Jésus, il vient offrir sa vie pour nous guérir de ça, mes amis, pour changer notre destinée. Mais ce n'est pas extraordinaire. C'est ce que Jésus vient faire ici-bas. Alors, quand on dit qu'on doit imiter l'attitude de Jésus, c'est cette attitude de se mettre au service, d'obéir à la parole de Dieu, comme lui a été obéissant. Mais lui, il avait une mission particulière. Nous ne sommes pas appelés à expier les péchés de l'humanité, d'accord? Nous, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la croix. Par contre, Jésus nous dit de prendre notre croix, c'est-à-dire de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à notre égoïsme, de renoncer à tous nos petits privilèges que l'on a. On en a forcément, les amis. On a toujours des avantages à tirer de certaines situations. Eh bien, Dieu nous dit, non, 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 non. L'attitude de Christ, ce n'est pas justement de te cramponner à ces petits privilèges, mais de les laisser et de servir les autres. Et c'est l'exemple. Et vous savez que c'est la voie royale pour être heureux, c'est de donner sa vie pour les autres. Jésus le dira en Jean chapitre 15, verset 13, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et ça, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que j'aime suffisamment ceux qui sont autour de moi pour offrir ma vie, pour donner de ma vie aux autres, donner de mon temps, donner de mon énergie, même donner de mon argent. Tous les aspects de notre vie sont là pour être offertes. Si Dieu t'a donné une grande maison, mon ami, il faut pas que tu agrandisses ta clôture, hein. Tu dois agrandir ta table. Si Dieu t'a donné une grande maison, c'est pour pouvoir faire des barbecues, c'est pour pouvoir inviter. Alors, pas pendant tant de temps de Covid, on est d'accord. Mais on va revenir à une situation normale, c'est ma prière et je pense que Dieu va permettre qu'on revienne à une situation normale. Si tu as une grande maison, ce n'est pas pour construire des barrières plus hautes, c'est pour construire une table plus grande. Et donc, si Dieu nous a donné des capacités, c'est pour qu'on les mette à son service. Toute notre vie doit être à son service. Si tu as reçu des dons, des talents, si tu sais bricoler, eh bien tu dois le mettre au service des autres. Si tu as reçu un don d'encouragement, eh bien tu dois prendre ton téléphone, tu dois prendre ton stylo, envoyer des petits mots. C'est ça que le Seigneur te confie comme mission. OK? Et donc, il veut qu'on soit au service des autres. Troisième point, et là je vais aller plus vite, c'est que Jésus offre volontairement sa vie divine. Jésus offre volontairement sa vie divine. Et là, on ne peut pas prendre exemple sur lui, hein, je l'ai dit, notre objectif, ce n'est pas d'expier le péché du monde. Par contre, c'était le sien. Donc, vous voyez, l'imitation de Christ, elle a une limite ici. On doit imiter son attitude d'obéissance, son attitude de service, son attitude d'offrir notre vie pour les autres. Mais on ne doit pas aller sur une croix comme il l'a fait. Et ça a été le fruit de l'obéissance de Jésus. Et ça, c'est par contre un vrai fruit. Obéir jusqu'au bout, même quand c'est difficile, même quand ça fait mal. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Jésus s'est abaissé au point de nous donner sa propre vie. Quelques heures avant de subir le supplice de la croix, Jésus était dans le jardin de Gethsémané. À ce moment de l'histoire, il fut au bord de ses limites humaines. Il venait de subir de quelque chose de terrible, la trahison d'un de ses plus proches collaborateurs, Judas. Et Jésus était donc devant un choix capital. Soit il choisissait de tout arrêter en quittant son corps terrestre et en imposant sa gloire aux hommes qui étaient venus l'arrêter, il aurait pu le faire, hein? Il claquait des doigts, il y avait 12 légions d'anges, des milliers d'anges qui débarquent. Waouh! C'est pas ce qu'il a fait. Donc il avait ce choix. Soit il faisait ça, et quelque part il a dit à Dieu, Si tu pouvais me proposer un autre plan, je serais peut-être partant pour le prendre. Et Dieu n'a absolument rien répondu, ça a été silence radio. Si toutefois, Seigneur, tu peux ôter cette coupe de devant moi, hein, tout ce qui t'attend là. Et Jésus était Dieu, il savait exactement ce qu'il attendait. Et comme Dieu n'a absolument rien dit, silence radio, eh bien, il a été jusqu'à la croix. Et donc, il a choisi le plan B, pas le plan B, justement le plan A que Dieu avait prévu. Et donc, au lieu de la joie qui lui était proposée de rejoindre son Père dans sa présence, eh bien, il a supporté la croix. Et c'est Hébreux 12 qui nous dit, il a supporté la croix, il a méprisé la honte. L'obéissance allait conduire Jésus à la croix, sur la chaise électrique, sur la corde, tu peux mettre tout ce que tu veux, un lieu de supplice. Et donc c'était un chemin, la croix, de renoncement à sa propre volonté. Un chemin qu'il ne souhaitait pas forcément emprunter parce qu'il savait exactement, en tant que Dieu, la souffrance qu'il attendait. Un chemin qui allait le séparer pour un temps de la joie et de la communion avec son Père. Un chemin qui allait l'humilier au plus haut point. Lui qui était pur, sans péché, il allait prendre sur ses épaules le péché de tous les hommes et mourir comme un malfaiteur, comme un criminel, comme un assassin, comme un pédophile. Vous imaginez porter ce poids alors que vous êtes parfaitement saint, pur, que vous n'avez jamais péché et on vous accuse injustement et on vous fait condamner pour quelque chose que vous n'avez pas commis. Eh bien, mes amis, Jésus est allé jusque-là. En offrant sa vie sur cette croix, Jésus a choisi de prendre toutes nos saletés, toutes nos mauvaises pensées, toutes nos petites magouilles, tout notre égocentrisme. Jésus, il a pris ça sur lui. Et en échange, il nous offre sa vie éternelle. Nous, on a une vie terrestre, ça dure, je sais pas, quand tout va bien, entre 75 et 80 ans, en gros. Hein, ça monte chaque année un petit peu plus. Mais l'éternité, mes amis, c'est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que 80 années, d'ailleurs, pas 80 années, mais 80 années sur une terre, dans un monde imparfait. L'éternité dans la présence de Dieu, les amis. Wow. Mais si ce n'est pas avec Jésus, eh bien, ça sera sans Jésus. Et là, ça va être beaucoup plus dur. Parce que c'est ce que la Bible appelle l'enfer. Et ce que nous vivons comme difficulté ici, les injustices, eh bien, ça sera largement pire en enfer. Mes amis, je vous invite à lire maintenant les derniers versets, les versets 9 à 10. Et c'est mon quatrième point et dernier. Jésus mérite l'adoration volontaire de tous les humains. Quand on voit ce qu'il a fait, les amis, on ne peut dire que waouh, amen, et se mettre à genoux. Et c'est de toute façon ce qui va se passer à la fin des temps. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais ici, ce texte commence par c'est pourquoi. Et ça indique une conséquence. Il y a une conséquence à l'abaissement extrême du Fils de Dieu. Finalement, Jésus sera élevé aussi haut dans les cieux qu'il s'est abaissé sur la terre. Aujourd'hui, il nous propose de vivre la même chose. Si nous cherchons à être élevés sur cette terre, eh bien, nous allons être abaissés dans les cieux. Si nous cherchons à définir nos propres règles, à définir ce qui est bien et ce qui est mal, à vivre comme si Dieu n'existait pas, à nous élever quelque part, eh bien, Dieu nous abaissera. Dieu récompense ceux qui lui font confiance. Il offre sa grâce aux humbles, mais les orgueilleux, il les abaisse. Matthieu chapitre 16, verset 25 nous dit: Quiconque en effet voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, pas moi, mais Dieu, la trouvera. Mes amis, un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Que ce soit dans les cieux, l'endroit supérieur de la terre, ou en enfer, dans l'endroit inférieur de la terre. Tout le monde, même le diable, devra confesser que Jésus est Seigneur. Il devra plier le genou devant Sa Majesté et le confesser. Toute langue, même la langue de celui qui l'aura renié toute sa vie. Est-ce que vous trouvez ça injuste? Si vous trouvez ça injuste, alors écoutez cette petite histoire. On raconte qu'à la fin des temps, des milliards de gens se trouvaient sur une grande plaine devant le trône de Dieu. La plupart avaient peur de la lumière intense et brillante. Mais quelques groupes discutaient avec indignation, critiquant violemment Dieu. Hein? Imaginez une manifestation avec des banderoles, quoi. Comment Dieu a-t-il le droit de nous juger? Que sait-il de la souffrance humaine? Moi, j'étais envoyé dans un camp de concentration. Moi, on m'a violé. Moi, on m'a martyrisé. Moi, on m'a torturé. Moi, ils m'ont tué uniquement parce que j'étais un immigré. Moi, ils m'ont tué parce que j'étais noir. Ailleurs, il y avait un groupe d'enfants kurdes massacrés, puis des ouvriers qui avaient été écrasés par une grue. Chacun avait une plainte à déposer à Dieu. Comment Dieu peut-il permettre tout cela? Il a de la chance de pouvoir vivre là-haut dans le ciel où le mal n'existe pas. C'est vrai, il ne sait rien de tout ce que l'homme est obligé de supporter. Et chaque groupe envoyait une personne choisie parce qu'elle avait le plus souffert. Et dans ce groupe, il y avait un juif, un noir, quelqu'un d'Hiroshima, un enfant terriblement déformé par la maladie, un prisonnier politique torturé, une victime du Covid, etc. Ils étaient tous là au beau milieu de la plaine et ils se consultaient. Et finalement, ils se mirent d'accord sur le procès qu'ils allaient faire à Dieu. Avant que Dieu n'ait le droit de les juger, eh bien, ils devaient souffrir ce que eux avaient souffert. Et regardez ce qu'ils ont écrit. La punition pour Dieu était la chose suivante. Il faut que Dieu vive sur terre comme un homme. Comme ça, il va comprendre nos souffrances. Il doit être juif. Comme ça, il comprendra l'Holocauste. Il faut qu'on le croie illégitime. Il faut qu'il fasse un travail si dur que sa famille le considère fou quand il le fait. Il faut qu'il vive dans un pays occupé où les droits de l'homme sont bafoués. Il faut qu'il soit trahi par ses amis. Il faut qu'il subisse un procès truqué où les accusations sont totalement fausses. Il faut qu'il soit jugé par un magistrat lâche. Il faut qu'il soit torturé et qu'il meure horriblement. Et enfin, il faut qu'il ressente l'affreuse solitude de la mort. Mes amis, à chaque partie de la sentence, la foule applaudissait. Mais quand le dernier eut fini, il y a eu un grand silence. Plus personne ne bougeait, parce que tout d'un coup, tous comprirent que Dieu avait déjà purger sa peine. Le message s'achève ici, mais j'aimerais tirer quelques applications de ces principes que l'on voit ici, de l'attitude que Jésus a eue et du modèle qu'il est pour nous, pour justement l'unité dans l'Église. Et donc, je reviens à la question du départ. En quoi l'abaissement de Christ est-il un modèle pour vivre l'unité? Et je vais prendre trois domaines, pas simplement dans l'Église, mais trois domaines d'application sur les trois éléments que j'ai développés, les quatre points. On ne peut pas prendre le dernier, mais les trois premiers. Imaginons un couple où chacun met ses exigences de côté et se préoccupe d'abord de l'intérêt de l'autre. D'accord? Eh bien, ce serait un couple uni. Un couple qui n'aurait même plus d'occasion de se disputer. Hein? Si tu veux partir en vacances, si toi tu veux partir à la mer et que ton épouse veut partir à la montagne, eh bien toi qui veux partir à la mer, tu dois dire, OK, ma chérie, pour toi, on va partir à la montagne. Et votre épouse devrait dire la même chose. Ben, mon chéri, comme pour toi, tu veux aller à la mer, eh bien on va aller à la mer. Eh bien, mon amour, si on veut réconcilier les deux, on va aller en Corse parce qu'il y aura à la fois la mer et la montagne, vous voyez? Ou on va aller à Genève parce qu'il y aura le lac et puis on est juste à côté des montagnes. Bon, ça, c'est une petite boutade, mais vous voyez, il y aurait plus de disputes quelque part parce que justement, on est conciliant. On va chercher toujours l'intérêt de l'autre avant le sien. Deuxième champ d'application, la famille. Imaginons une famille où chacun est au service des autres. D'accord? Une famille où les parents n'ont plus besoin de rappeler 10 fois de mettre la table à leurs enfants, n'ont plus besoin de rappeler 10 fois de faire la vaisselle à leurs enfants, de ranger les jouets, de passer l'aspirateur, etc. Alors ne rêvez pas, les parents, je suis en train de décrire le ciel ici, hein. Mais dans l'hypothèse où chacun est au service des autres, eh bien, on aurait affaire à une famille parfaitement unie, où il n'y aurait plus de disputes entre les enfants, où il n'y aurait plus de cris, de colère de la part des parents. Enfin, dernier champ d'application, l'Église. Imaginons une Église où chacun donne sa vie pour les autres. Mes amis, c'est ce qu'on devrait avoir, hein? À votre avis, est-ce que c'est possible où chacun va donner sa vie pour les autres? Eh bien, moi, je pense que c'est possible. Je connais au moins une personne, quelqu'un qui pourrait dormir jusqu'à 9 heures, alors qu'il se couche tard et qu'il se lève très tôt le matin. Eh bien, pendant ses jours de congé, il choisit de se lever plus tôt pour venir donner un coup de main à un frère qui fait des travaux. Il prend sa voiture, il paye l'essence, il travaille dur toute la journée et il rentre chez lui fatigué, mais heureux et uni avec son frère. Mes amis, j'espère que ce n'est pas simplement un exemple. D'accord? Mais dans l'Église, on devrait être capable d'appliquer ces trois principes, les amis. Hein? Donc, mettre de côté nos exigences, nos droits, nos petits privilèges, se mettre au service des autres et offrir notre vie en sacrifice quelque part. On offre notre vie aux autres. Voilà, je termine ici. Alors, j'aimerais juste vous rappeler que on va pouvoir se retrouver dans quelques instants sur Zoom. Donc, si vous n'êtes pas adepte du Zoom encore, allez sur notre